Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bonjour à tous et bienvenue dans Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Autour de moi aujourd'hui, il y a d'abord Alfred Orange, journaliste RMC, pour tout nous expliquer comme tous les jours. Salut Alfred.
Salut Rémi, salut à tous.
Perico Légas a pris place à ses côtés. Salut Perico, journaliste
salut
à Marianne.
Rémi. Salut Rémi, salut à toute l'équipe.
C'est quasiment césarien.
AB.
Frédéric Hermel est là, au journaliste RMC. Salut Fred.
Bonjour Rémi, bonjour à tout le monde.
Et Pierre-Edouard Magnan, président du mouvement Chômeurs et Précaires. Salut Pierre-Edouard.
Bonjour Rémi, bonjour à toutes et à tous.
Et à côté de moi, il n'y a pas n'importe qui. Il y a Marion Bartoli. Merci Marion d'être là avec nous.
Merci à vous les amis, merci de m'avoir invité.
Consultante RMC, ex numéro 1 du tennis féminin français, vainqueur de Wimbledon, c'était en 2013. Marion, si elle est là, évidemment, c'est parce qu'on va parler des JO. Nous sommes à J-100.
On y est.
JO de Paris. Et si on arrêtait de râler, on vous pose la question, vous nous appelez au 32-16. Vous êtes d'accord, pas d'accord? C'est donc le 32-16 à 12h30. L'interdiction du tabac au Royaume-Uni, interdiction progressive. Faut-il faire la même chose en France à 13h? Faut-il armer tous les policiers municipaux? Vous avez peut-être vu ces images à Schittigheim, près de Strasbourg, ce policier municipal fauché par une moto, par un jeune de 17 ans qui faisait du rodéo sauvage pendant un établissement scolaire. Et dans le même temps, on apprend que 6 Français sur 10 sont pour l'armement systématique des policiers municipaux. Il y en a 6 sur 10 qui sont aujourd'hui armés. Vous nous appelez là aussi au 32-16 à 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping à 14h. Laissez un pourboire au restaurant, vous le faites ou vous le faites pas? C'est logique ou c'est dépassé? À 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui. Et puis, pour cette journée spéciale J-100 avant les JO sur RMC, on joue évidemment et on vous fait gagner, Alfred, vos places pour les JO.
Toute la journée, à la 24e minute de chaque heure, nous appelons l'un d'entre vous pour vous offrir 2 places pour assister au moment les plus prestigieux des JO, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation et j'en passe. Vous allez pouvoir choisir si vous voulez faire partie des gagnants de ces 100 places pour les Jeux Olympiques. Vous envoyez Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16.
RMC.
Jeux Olympiques de Paris 2024.
J-100.
Assez solennel. C'est le compte à rebours du jour J-100 avant le début des JO, journée spéciale sur RMC, radio officielle. On n'est pas peu fiers des Jeux Olympiques de Paris 2024. Marion Bartoli est donc à côté de moi. Mais d'abord, je vais me tourner vers Alfred. Alfred, la cérémonie d'ouverture approche. Ce sera le 26 juillet prochain. Et pour le moment, bon, allez, on va le dire, les Français sont encore un petit peu frileux.
Oui, la semaine dernière, d'après un sondage Ipsos, ils étaient encore moins d'un sur deux, 47% pour être précis, à se dire confiants pour les Jeux et à croire au bon déroulement de l'événement. La bonne nouvelle, c'est que 2/3 des Français sont toujours séduits par l'idée d'une cérémonie sur la Seine qui accueillera 326 000 spectateurs pendant toute la durée de la compétition. 15 millions de visiteurs sont attendus par l'Office du Tourisme de Paris, une fréquentation touristique qui devrait aussi booster notre économie. Sur RMC lundi, Emmanuel Macron évoquait plus de 6 milliards d'euros de retombées économiques pendant ces Jeux, assurant qu'ils seraient rentables. Ils seront aussi inoubliables au sens propre du terme, puisque les derniers, c'était il y a 100 ans, tout pile, en 1924. La dernière variante, ce sera évidemment la performance de la France pendant ces Jeux. Pour le tableau des médailles, les Bleus sont ambitieux et visent, sans le dire trop fort, une cinquantaine de breloques et un top 5 dans le classement des pays.
J-100 avant les JO de Paris, si on arrêtait de râler. Oui, non, vous nous appelez au 32-16 et vous pourriez d'ailleurs dialoguer en direct avec Marion Bartoli. Marion, je me tourne d'abord vers toi. Est-ce qu'il faut qu'on arrête de râler maintenant ?
Oui, bien sûr, mais c'était logique que les Français effectivement s'interrogent parce que c'est un événement majeur qui va regrouper énormément de monde, et dans le contexte actuel géopolitique global, il était normal qu'il y ait des inquiétudes qui soient égrenées par les Français. En revanche, je pense qu'effectivement à 3 mois des Jeux Olympiques, il est temps de se tourner vers la performance, vers la compétition, vers l'engouement autour de nos athlètes français, vers ceux qui sont capables d'aller ramener beaucoup de médailles. Je pense à Léon Marchand bien évidemment, mais d'autres sportifs qui ont cette capacité d'aller vraiment se transcender pour les les Jeux Olympiques. Pour certains, ce sera leur dernière Olympiade. Donc encore plus pour les athlètes français, avoir ce souvenir inoubliable de remporter une médaille chez eux en France pour leur dernière Olympiade. Donc il y a énormément de moments importants dans une vie d'un sportif. Vous savez, vous vous préparez pendant des mois, voire parfois des années pour une épreuve, pour une minute, pour 30 secondes, pour 10 secondes. Et je crois que d'avoir le soutien du public, d'avoir un soutien populaire, ça aide vraiment les athlètes à se transcender à ce moment-là.
Bon, tu es française, tu connais bien la France, Marion.
Oui.
Ça t'étonne qu'aujourd'hui encore, on a quand même pas mal, enfin, le disait, pas mal de gens qui disent oui, mais non, ça va pas bien se passer, on doute. Est-ce qu'il fallait vraiment les organiser?
Non, mais
ça t'étonne cet esprit râleur chez les Français?
Non, ça ne m'étonne pas.
Mais
en revanche, je pense que ça aide justement la présidence de la République et tous les acteurs qui vont assurer la sécurité à être encore plus vigilants, à écouter justement toutes ces problématiques, à les prendre en considération parce qu'elles sont réelles aujourd'hui. La menace terroriste dans le monde entier, elle est réelle. Donc il y a énormément de points à gérer. Il va y avoir cette cérémonie si elle est, enfin, en tout cas si on reste sur le plan A, qui va être sur la scène, qui va être avec une très grande largeur de territoire à couvrir, ce qui est quand même assez inédit, puisqu'auparavant, si on est sur un stade, pour la sécurité, ouais, ça reste complexe, mais quand même beaucoup moins complexe que de couvrir toute une scène. Donc, il faut arriver à mettre des snipers sur les toits, à s'assurer que les appartements sont dégagés, qu'il n'y a pas de risque. Donc, bien évidemment, cela engendre des difficultés sur le plan de la sécurité, mais je crois vraiment à la capacité de l'État français à régler ces problèmes et effectivement de montrer au monde entier qu'on est capable de faire en France des Jeux Olympiques inoubliables.
Frédéric Hermel, est-ce que, allez, on est à J-100, maintenant on arrête de râler?
Oui, on arrête de râler, mais on se souvient de France 98, la Coupe du Monde. Aujourd'hui, dans la mémoire collective, c'est un merveilleux moment qui a réuni tous les Français.
Aimé Jacquet était le pire sélectionneur, ben juste avant, absolument.
On critiquait Aimé Jacquet, absolument. 100 jours avant, ça intéressait pas grand monde, à part les footeux. Et puis finalement, ça a été un événement merveilleux. Mmh. Et puis on en garde un souvenir extraordinaire. Donc moi, j'en ai un peu marre de ces critiques. Je veux dire, les Anglais sont pas meilleurs que nous. On n'est pas plus con que les Anglais, on n'est pas plus con que les Brésiliens. Les Anglais, les services publics, on peut pas dire que ce soit à la hauteur des services publics français. Mmh. Et ils ont réussi leur jeu. Alors pourquoi on réussirait pas nos jeux, nous? Franchement, j'en ai marre. On est un grand pays. On est la 7e puissance du monde. On a une police extraordinaire, une armée magnifique. Une gendarmerie extraordinaire. Enfin, voilà. Enfin, franchement, je vois. Il y a des gens très sérieux à la tête de notre pays. Et si on profite de cet événement pour critiquer le gouvernement, il faut savoir que le gouvernement est là, mais il y a plein de professionnels tout en dessous qui sont là. Des gens qui sont parmi les meilleurs du monde dans leur domaine. Donc moi, je n'ai absolument aucune inquiétude. Ça va être un grand succès.
Mais là où tu as raison, Fred, c'est que je pense que l'engouement populaire va être décuplé si au départ des Jeux, les Français performent.
Exactement.
Et c'est là où je te rejoins sur effectivement le parallélisme avec la Coupe du Monde et le foot, c'est qu'il y a eu cet engouement populaire parce que la France a commencé à gagner, parce qu'il y a eu des matchs accrochés, parce qu'il y a eu les deux buts de Thuram et parce que Zinedine Zidane a mis ses deux têtes. Donc je crois que là où effectivement je vous rejoins, c'est que il y a un scepticisme, c'est certain, mais en revanche, si les Français commencent à performer, si on arrive à 20-30 médailles assez rapidement, il va y avoir un engouement populaire qui va être extraordinaire.
Et puis, si tu me permets, une simple un truc, ouais. Et je suis persuadé qu'on va la faire, cette cérémonie, les gens vont être tellement fiers
d'ouverture,
de voir des images dans le monde.
Si elle se déroule bien, et si elle se déroule comme elle doit se dérouler.
Ah ouais, quand même.
Regarde LeBron James sur une péniche. LeBron James sur une péniche qui traverse la scène.
Ouais, ça va être classe.
Ça va être magique.
On espère. Pierre-Edouard, est-ce que l'on arrête de râler maintenant? Bah déjà, on arrête de râler, surtout pour une partie des gens qui râlent et qui ne seront même pas sur Paris, qui ne seront pas impactés par la gêne d'un immense événement comme celui-là. Parce qu'il y a aussi un côté, vous savez, en France, on soutient toujours des trucs qu'on n'utilise pas, on râle contre des trucs qui ne nous concerneront pas en direct. Après, Marie-Bartoli vient de dire, moi j'y ai pensé, j'ai dit, à la première médaille, tout le monde va trouver que ces jeux sont formidables. Je veux dire, à la première médaille française, évidemment.
La première belle histoire française.
Tout le monde va d'un seul coup trouver que tout est formidable. Évidemment que c'est une gêne pour le quotidien de beaucoup de Parisiens. Parce que quand on organise un événement de cette ampleur-là, évidemment, ça perturbe un certain nombre de rythmes, ça pose un certain nombre de problèmes, ça suscite des questions. Et comme il faut reconnaître qu'en ce moment, les pouvoirs publics ont quand même pas forcément très bonne presse, que le niveau de confiance dans l'institution est ce qu'il est, que les institutionnels et les pouvoirs politiques, au-delà peut-être même d'ailleurs de ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent faire, ils en prennent beaucoup parce qu'ils espèrent en tirer, ce qui est légitime, hein, bénéfice. Ouais. Donc forcément, comme on doute beaucoup d'eux sur plein de sujets, ben on doute aussi beaucoup d'eux sur le sujet des Olympiques. Après, voilà, d'abord, c'est effectivement un très bel événement. Je répète, à la première médaille française, vous allez voir que d'un seul coup, tout le monde va dire qu'il était pour les Jeux Olympiques et qu'il les soutenait depuis 15 ans. Et puis, à la deuxième médaille française, tout le monde dira que c'est lui qui a eu l'idée de les faire à Paris. Et si la cérémonie sur la scène se passe bien. Non, mais voilà, en plus, on est à Paris. Tout le monde adore râler contre Paris, contre la maire de Paris. À tort ou à raison, je rouvre pas le débat. Mais en plus, on est à Paris, qui est quand même une ville où on n'arrête pas de râler la circulation, les poubelles, les machins.
Bah c'est vrai,
si on n'a pas arrêté de dire que, oh, j'espère qu'on verra les rats défiler aussi sur la scène, je veux dire que si elle se passe bien, tout le monde oubliera les rats de Paris et tout le monde se dira que Paris est définitivement la plus belle ville du monde.
Évidemment,
pour l'équilibre, il nous fallait un râleur. Ah. Aujourd'hui, il fallait un ronchon. Va-t-il nous décevoir? Perico Legas, est-ce qu'on arrête de râler maintenant qu'on est à J-100 des JO?
Tu vas pas être déçu. J'en ai marre du râleur bashing. Ah. Personne ne râle. Ça, c'est une vision des animateurs en manque de sujet.
Merci. Merci.
Les journalistes.
Je le prends pour moi.
Des journalistes fatigués et des gens. Non. Personne ne met en cause les perspectives sportives de la France. Nous, opinion publique, nous sommes bombardés d'informations permanentes qu'on n'a pas inventées. On n'est pas experts. Des pouvoirs publics, des organisateurs disant il y aura un problème de transport en commun, il y a un problème d'organisation, il y a un énorme problème de sécurité. Ça, c'est clair qu'on est dans une époque où tout peut arriver et à la moindre tragédie, ça sera une catastrophe. Donc, nous commentons les informations que des gens mal intentionnés, mais qui sont les responsables des Jeux Olympiques, nous déversent à longueur de journée. Alors, fermez votre gueule, ne nous dites rien, on râlera pas. Mais si on nous dit, il y a un risque que voilà, il n'y ait pas assez de trains, il y a la sécurité, trop de monde, le prix, voilà, oui, ça, toute grande manifestation internationale crée des troubles et des désordres. Mais c'est pour la bonne cause. Je me souviens du bicentenaire de la République française aux Champs-Élysées. Il y avait eu beaucoup plus aussi de, ça s'est très bien passé. Nous sommes dans une époque aujourd'hui où il y a un risque d'attentat majeur, parce que la France est la cible. Maintenant, on a trois candidats. On a l'islamisme, la Russie supposée en faire, et même l'Iran menace aussi de s'y mettre. Donc, c'est tout. Il y a une inquiétude réelle, parce qu'il y a une conjoncture inquiétante, et qu'on a la sensation que l'État et les pouvoirs publics ne disposent pas de tous les moyens pour nous protéger. J'en veux pour preuve, il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de plan C. Mais c'était hors de question
d'aller officiellement.
Officiellement. D'accord. Alors, mais voilà, mais voyez, on met des bémols
jusqu'au plan
B. Le président de la République lui-même, très courageusement, dit, il y a non seulement un plan B, mais il y a un plan C, parce qu'il y a un risque réel. C'est tout.
Marion.
Allez pas chercher des noises à ceux qui n'en cherchent pas.
Marion, je peux vous dire, Perico, qu'avant même que le plan A soit mis en place, il y avait déjà un plan B, un plan C. C'est une évidence, parce que le plan a été tellement compliqué.
Ça c'est bloqué.
Mais le fait de ne pas l'avoir dit,
c'est normal, on reste sur un...
C'est parce qu'on a poussé à le dire.
Exactement.
Les spectateurs aussi, on a eu des articles sur 8 millions.
Dites la vérité tout de suite, l'opinion publique est assez mature pour comprendre qu'il y a des enjeux.
J-100 avant les JO de Paris, c'est une question de journaliste fatigué, comme l'a dit Perico Legas. Est-ce qu'on arrête de râler? Vous nous appelez au 3216 et Ethan est avec nous. Bonjour Ethan.
Bonjour tout le monde, comment ça va?
Très bien, merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Ethan, vous nous appelez d'où?
Je vous appelle du Finistère, de Brest précisément.
Bon, vous faites quoi dans la vie, Ethan?
Eh ben, je suis étudiant en première année de licence information communication.
Très bien.
Pour devenir journaliste sportif et vous rejoindre plus tard.
Très bien. Bon, j'espère que vous
ne serez pas court là, moi aussi.
J'espère
que vous
ne serez
pas trop vite fatigué.
Bon choix, Ethan.
Ethan,
bientôt en retraite.
Ethan, est-ce que maintenant qu'on est à 100 jours de la cérémonie d'ouverture, du début des JO, il faut arrêter de râler, quoi?
Bah, personnellement, moi, je rejoins Perico Legas sur un point, c'est que j'aime pas le mot râler. Parce que je considère que le râleur, c'est quelqu'un qui se plaint alors qu'il n'a pas vraiment de raison de le faire. Alors, franchement, je trouve qu'on a de vraies raisons de le faire. L'insécurité, la scène, on ne sait pas si elle est vraiment propre ou pas. Enfin, on doute bien qu'elle ne l'est pas.
Mais
en fait, la chose quand même, que les deux raisons qui me poussent à avoir hâte et à me dire qu'il faut ne pas penser qu'aux problèmes que ça va engendrer, c'est déjà, moi, les souvenirs que les Jeux Olympiques, ça provoque chez les gens. Moi, je me rappelle d'une nuit en 2021 pendant les JO de Tokyo, où je réveille mon père à 4h30 du matin pour regarder France-États-Unis en basket, alors que pour le jeune garçon que j'étais à l'époque, à 15 ans, se réveiller à 4h du matin en pleine vacances d'été, c'était un supplice, déjà. Et la deuxième raison, c'est qu'en tant aussi, parce qu'on parle pas aussi de ce qui arrive après, c'est que moi, personnellement, en tant que non-voyant de naissance, j'ai très hâte aussi aux Jeux Paralympiques. Les Jeux Paralympiques, ça. Ouais, j'ai très hâte à ça, j'ai hâte de voir le Cécifoot, j'en discute avec des potes à moi. On dit, il est génial, il va y avoir le Cécifoot sur France 2 devant un stade de 13 000 personnes et tout. C'est super. Et évidemment, il faut pas penser qu'à ça. Il faut pas penser qu'à l'insécurité, mais il faut quand même le garder à l'esprit et il faut aussi profiter de ce qui va arriver en juillet, août prochain pour moi.
Vous faites du Cécifoot en club, Ethan?
Non, malheureusement, parce qu'à Brest, il n'y en a pas. Et le plus proche, c'est Nantes. Donc bon, voilà.
Ouais, ça fait loin. Mais est-ce que vous pensez justement, parce que c'est vrai qu'il faut parler aussi des Jeux Olympiques et Paralympiques, est-ce que vous pensez que ça peut débloquer des choses en France? Certains disent, moi je voyais ce matin, il y avait une tribune qui est parue, notamment signée par des profs d'EPS, qui disent que justement, c'est l'occasion. Aujourd'hui, on le sait qu'en France, on a du mal avec le sport scolaire, quoi.
Ça, c'est certain.
Que c'est peut-être l'occasion, justement, d'en faire vraiment un tremplin pour enfin développer le sport scolaire en France.
C'est l'occasion d'apporter une nouvelle visibilité. En plus, moi, j'ai eu un passif assez compliqué avec le handisport à l'école. Donc, voilà. Mais oui, c'est sûr que ça peut apporter une nouvelle visibilité. Alors, après, au niveau de la politique, du haut de mes 18 ans, je m'y intéresse, mais je ne vais pas non plus commencer à parler là-dessus alors que je ne m'y connais pas. Mais je sais que mon objectif principal, ça va être d'intéresser mes parents aux épreuves de Cécifoot, et je compte bien vivre à peu près les mêmes émotions avec eux qu'on a vécu quand il y avait France-Argentine en 2022 et qu'on criait tous dans la maison à en effrayer le chat. Voilà, je compte faire vivre ces belles émotions-là à mes parents. Pas du vrai football, parce que c'est aussi du football Cécifoot, mais pour du football valide. Quoi.
Merci beaucoup, Ethan, d'avoir été avec nous, et je vous souhaite de beaux JO. JO et Jeux Paralympiques, évidemment. Merci beaucoup, Ethan, d'avoir été avec nous au 32-16 dans Estelle Midi. C'est ça ce que tu disais, Marion. C'est ce témoignage d'Ethan. Il a 15 ans. Il se réveille en pleine nuit à 4h du mat, il réveille son père.
Bien sûr, mais ce sont les émotions du sport. Mais le mot le plus important lorsqu'on parle des Jeux Olympiques, c'est l'héritage. Et l'héritage, finalement, il peut être dans plusieurs domaines. Il peut être dans le domaine sportif, puisque bien évidemment, on crée des vocations pour aller s'inscrire dans un club de sport, s'inscrire dans une association sportive, vouloir finalement pas forcément sauter les cours de PS au collège, mais s'y mettre parce qu'on a découvert quelque chose qui nous plaît. Et puis, bien sûr, il y a l'héritage aussi en termes d'infrastructures, notamment, je pense, au village olympique qui va quand même être une nécessité pour le département de la Seine-Saint-Denis. Cette fameuse piscine olympique aussi, aujourd'hui, il y a 60% des enfants en Seine-Saint-Denis qui rentrent en 6e et qui ne savent pas nager. Donc tout cet héritage est extrêmement important dans l'histoire d'un pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui en France, malheureusement, le sport et les sportifs, dès l'école, ne sont pas forcément mis en valeur, voire pas du tout.
C'est la question que
j'allais poser.
Marion, est-ce que tu crois, bon, je mets peut-être la charrue avant les bœufs, mais que ces JO-là peuvent faire vraiment changer la France, la faire passer de nation. On le sait, on dit tout le temps, la France n'est pas une nation de sport.
En tout cas, c'est l'objectif du président de la République. Il nous l'a exprimé très clairement lundi. Avec la ministre des Sports également, ils ont mis en place tout un système avec trois piliers, 1000, 10 000 et 100 000 clubs, associations et bénévoles pour arriver justement à aider les collégiens à aller faire du sport en dehors du collège. Parce que finalement, il faut arriver à avoir tout ce système de logistique pour amener les collégiens en dehors du collège, leur faire faire leur heure de sport, voir leurs deux heures et les ramener. Mais je crois que s'il y a bien un événement qui peut arriver à créer cette dynamique de par les moyens financiers qui ont été investis et par la prise de conscience globale qu'effectivement, si on va avoir des grands sportifs qui gagnent des médailles, ça part aussi de l'école là où tout le monde va. C'est vraiment grâce à ces Jeux de Paris 2024. C'est difficile de répondre à ta question en amont. Oui. On le verra au fur et à mesure et après, mais en tout cas, j'y crois très fort.
Frédéric.
Moi, je suis persuadé qu'il y a des vocations qui vont naître. Parce que les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de voir, vraiment avec de tout près,
n'est plus grand sportif
ou à la télé,
absolument,
des sports qu'on ne voit jamais.
Pour la plupart, ça va être à la télé quand même.
Il y a des gamins qui vont aimer le tir à l'arc.
Ouais.
Parce que voilà, ça sera leur premier jeu, ils auront 7 ans, 8 ans, et ils vont découvrir ça. Moi, je me souviens, il y a des passions qui naissent comme ça. Je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un dessin animé japonais, Jeanne et Serge, qui jouaient au volleyball. Il y a eu un record d'inscription au volet pendant de nombreuses années parce qu'il y avait ce dessin animé qui faisait fureur. Donc là, ça va créer des vocations. Et en plus, le fait qu'on va savoir que c'est juste à côté, que c'est à Paris, ça va beaucoup aider à cela.
On retourne au 32-16. Vincent est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vincent, vous habitez où?
J'habite dans le Gard et je vais être bénévole à Marseille pour le tournoi olympique. Je vais être chauffeur.
Ah, très bien. Vous faites quoi dans la vie?
Je suis agent territorial.
Agent territorial, vous avez quel âge?
J'ai 35 ans.
D'accord. Pourquoi cette volonté d'être bénévole pour les JO?
Alors, pour vous situer un peu, c'est pas ma première expérience. J'ai fait énormément d'événements sportifs en France. J'ai fait la Coupe du Monde 2007, l'Euro 2016, Coupe du Monde féminine 2019, la Coupe du Monde de rugby 2023 et les JO.
Ah oui?
Donc, je suis un
peu... Et ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi, Vincent?
Ça m'apporte déjà de rencontrer du monde de différents pays, différentes cultures. On est tous ensemble. Pendant la durée des compétitions, on est une grosse famille. On parle avec tout le monde. ça permet d'ouvrir d'autres horizons et de découvrir d'autres cultures. Et ça, rien que ça déjà, c'est juste magnifique. Et puis de la chance d'être au cœur de l'événement, de dire d'apporter sa pierre à l'édifice, oui. c'est juste génial, quoi.
On met pas en cause les Jeux Olympiques. Merci. C'est très bien ce que vous dites. On ne remet pas en cause les Jeux Olympiques. Faites pas dire aux gens ce qu'on n'a pas dit. C'est merveilleux, c'est un grand événement. On veut que ça se passe de la meilleure façon possible. Et je pense que nous avons les moyens de le faire. C'est tout.
Une dernière question, Marion. Allez, si, parce que c'est notre sujet quand même. Tu devais dire quelque chose à quelqu'un qui dirait oui, mais moi les JO, ça m'intéresse pas. Ou alors je suis inquiet. Je sais pourquoi tout ce bazar. Pourquoi remuer tout ce pays pour ça? Qu'est-ce que tu lui dirais? En quelques mots.
Il y a plusieurs éléments. La première, c'est que s'il y a bien quelque chose qui rassemble et tout le monde, au-delà de tout et de toutes les frontières, c'est bien le sport. Ouais. Aujourd'hui, on va avoir quand même un village olympique où tous les athlètes, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau, seront mélangés et arriveront à vivre en harmonie ensemble. Donc, c'est vraiment un moment où il y a tellement de divisions dans le monde entier où on peut se retrouver et qu'il y a forcément un sport qui les intéresse. On peut pas pas aimer aucun sport. Donc je pense que d'être, de trouver son sport, de trouver son athlète français ou française, masculin ou féminin, et d'être à fond derrière lui ou elle, ça sera un moment magique. Et pour ma part, quand j'étais petite, je me rappellerai toute ma vie du tour de piste de Marie-Josée Pérec, où j'étais avec mes yeux d'enfant en me disant un jour je veux essayer de vivre la même chose. Moi ça a été sur un terrain tennis, mais ce sont des moments magiques et qui marquent surtout les plus jeunes. Donc s'il vous plaît, amenez vos enfants, faites-les regarder les Jeux Olympiques. Ils en garderont d'immenses souvenirs pour le reste de leur vie.
Merci beaucoup, Marion. On vous a posé la question, Alfred, est-ce qu'il faut arrêter de râler à J-100 des Jeux Olympiques?
Vous répondez non à 64%.
Oui, ça va monter tout doucement.
De râleur,
on est en France. Les JO de Paris
seront
à vivre.
Non, mais Périgon, on râle pas, c'est ça?
Oui,
non,
bah oui.
Non, d'accord.
Les JO de Paris seront à vivre tout cet été sur RMC Radio officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Marion Bartoli, évidemment, mais aussi avec Estelle Denis, là aussi on n'est pas peu fiers, avec David Douillet, J-100 avec la cérémonie d'ouverture et journée spéciale sur RMC. Aujourd'hui donc le Super Moscato Show sera en direct du Grand Palais éphémère tout à l'heure à partir de 15h,
évidemment.
Et pour cette journée spéciale, Alfred, on vous fait gagner vos places pour les JO.
Absolument, on vous fait gagner 4 places même à partir de midi 24. À partir
et bien maintenant, parce qu'on a Jonathan qui est avec nous. Bonjour Jonathan.
Et bonjour.
Bienvenue bonjour. Dans Estelle Midi, Jonathan. Bon bah si vous êtes avec nous, c'est qu'on a une bonne nouvelle, hein. Vous avez gagné des places pour les JO.
Effectivement, ça fait plaisir.
Mais vous allez pouvoir choisir, Alfred.
Oui, parce que vous êtes doublement gagnant. Non seulement vous avez gagné, mais en plus, on vous laisse le choix. J'ai devant moi 4 places. Soit 2 places pour de l'escrime et les épreuves féminines par équipe du Fleuret le 1er août au Grand Palais. Soit 2 places pour assister à la finale femme de football avec, on se le souhaite, l'équipe de France de Wendy Renard et Jenny Le Sommer. Le 10 août prochain au Parc des Princes à Paris.
Foot ou escrime, Jonathan?
On part sur du foot.
Allez,
excellent choix. Ouais,
bon, très bien,
c'est gagné.
Eh ben, on vous souhaite de beaux JO. Jonathan, merci d'avoir été avec nous. Merci.
Merci. Voilà.
Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Le Royaume-Uni s'apprête à interdire progressivement le tabac. Tiens, ça pourrait aider certains sportifs. Faut-il faire la même chose en France? Vous nous appelez au 32-16 et dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Merci encore.
Merci à vous, merci les amis. Merci.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Rémi Barré.
On prend la direction du Royaume-Uni avec la prohibition du jour. Le Royaume-Uni qui pourrait progressivement devenir un pays sans tabac. Les députés ont voté hier en faveur d'un projet de loi qui prévoit que les jeunes nés après 2009, ils ont 15 ans aujourd'hui, ne se verront jamais de leur vie vendre des cigarettes. Alfred, c'est l'idée, ce qu'on appelle la génération sans tabac.
Oui, ce projet de loi voté hier en première lecture interdirait donc à vie la vente de tabac aux moins de 15 ans. Concrètement, ça veut dire que les jeunes Anglais nés à partir de 2009 ne pourront jamais acheter légalement des cigarettes au Royaume-Uni. Une interdiction pour cette génération qui deviendrait la première sans tabac. Si les députés ont décidé de sévir, c'est parce que le tabagisme cause 80 000 décès par an outre-Manche, ce qui en fait la première cause de mortalité évitable. La deuxième raison, c'est que 4 Anglais sur 5 commencent à fumer avant 20 ans. L'idée, c'est donc de casser définitivement cette spirale d'addiction. Ailleurs dans le monde, seule la Nouvelle-Zélande s'y est brièvement aventurée avant de finalement faire marche arrière l'année dernière lors d'un changement de gouvernement.
Le Royaume-Uni s'apprête à interdire progressivement le tabac. Faut-il faire la même chose en France ? Vous nous appelez au 32-16. Bonne ou mauvaise idée, Perico Legas?
C'est génial. C'est la mort du pétard. C'est-à-dire que le trafic ne va plus être sur la drogue, mais sur le tabac, qui est quand même beaucoup moins nocif et beaucoup moins dangereux pour la société. Voilà, c'est une très bonne idée stratégique. Interdire la cigarette, ça veut dire qu'il va y avoir un trafic inévitable, surtout en Angleterre.
Bah, il existe déjà chez nous. Hein.
Mais c'est pour ça. Mais là, ça va être, ils vont se concentrer, les trafiquants vont sur le tabac. L'impact sera beaucoup moins, il y aura un impact de santé, mais l'impact sera beaucoup moins tragique socialement, économiquement et politiquement que le trafic de drogue qui va forcément en prendre un pet. Ça, c'est clair. Hein. Au moment où la mère d'Achternam autorise la schnouf directement, la cocaïne, vous avez vu ça, l'Allemagne y va,
et bien l'Allemagne, pour l'instant, c'est...
Eh bien oui, ben on interdit le tabac. Et en tout cas, c'est moins hypocrite que de faire monter en France, ah, c'est le tabac tue, avec des images épouvantables sur les paquets de cigarettes, on va le monter à 12, à 15, à 30, un jour à 50 euros, 100 euros le paquet, il y aura toujours des gens qui continueront à l'acheter, en disant c'est très mauvais pour la santé, mais on ne peut pas l'interdire. Quelle hypocrisie.
Mais est-ce que tu crois que ça peut marcher?
Mais il faut bien prendre à un moment donné des décisions courageuses politiques. Alors comme on n'est plus habitué du tout au courage politique, c'est pas possible. Oui, si le tabac est à ce point quelque chose de nocif pour la société, de mortel, de dangereux, qui coûte à la société, eh ben on prend une solution entre guillemets militaire, on l'interdit. Ça n'empêchera pas le trafic, mais ça redistribue les cartes vis-à-vis de la drogue. Et là, je peux vous dire que les Anglais, qui sont toujours des peuples en avance sur nous, ils ont un point d'avance.
Pierre-Edouard Magnan.
Si on doit interdire toutes les conduites à risque de la population, on va jamais s'en sortir. Parce que, je veux dire, à ce moment-là, on va aussi s'occuper de l'alcool, qui quand même tue dans notre pays et de manière massive. Sans compter qu'en coût de santé publique, c'est également massif.
Sauf que le tabac,
le tabac, on n'en fabrique pas.
Non, enfin, interdire le cidre quand même, non?
Si je me trompe, le tabac,
c'est pas de l'alcool.
Si je ne me trompe, le tabac, c'est la première cause de mort évitable. En France.
Oui.
Oui, non mais. Ce que je veux dire, c'est que deux choses. Alors, d'abord, il y a plusieurs aspects. Si effectivement, le tabac est une drogue, c'est incontestable. Il y a une addiction, il y a une addiction. C'est une drogue, donc ça crée des addictions. Ou on va au bout et on l'interdit. Ce que font les Anglais, à la limite, parce que je reconnais aux Anglais, c'est le mérite de la cohérence. Après, il y a un moment, ça pose une vraie question. C'est que est-ce que l'État doit interdire toute conduite qui présente ne fût-ce qu'un coût sanitaire pour les personnes. Il y a d'autres problèmes.
Les taxes sur les mauvaises conduites autorisées.
Les taxes, c'est-à-dire que l'État profite de nos vices pour gagner de l'argent. Ouais. Ça peut d'ailleurs se discuter, mais à la limite, pourquoi pas. C'est pas les taxes sur le tabac qui m'ont toujours choqué le plus, puisque il reste que c'est quelque chose de facultatif, quelque chose n'est pas obligatoire, qui n'est pas nécessaire comme bien. Après, je reste que ça ouvre quand même une porte, c'est qu'à partir de ce moment-là, effectivement, la question se poserait de l'alcool, parce que je suis navré, mais l'alcool est également une drogue et les ravages de l'alcool peuvent être effectivement redoutables. Et je tiens à dire aussi qu'on connaît tous des gens qui se sont arrêtés de fumer tout seul. Aucun malade alcoolique ne peut s'arrêter de boire seul. Je parle bien de malade alcoolique. Aucun ne s'arrête seul.
J'en ai connu.
Alors que le tabac.
Même en Normandie.
Le tabac.
Ils peuvent s'arrêter tout seul.
Oui, mais en Normandie, on ne boit pas d'alcool.
C'est vrai.
Je me permets de te le rappeler. Donc, il y a effectivement ce sujet-là. Et puis derrière, c'est quoi? À 65 ans, on va obliger à faire du sport. On va commencer à dire, parce qu'on mange des choses, McDo. Alors, ce n'est pas une addiction. Mais en termes de santé publique, c'est une catastrophe. Le Coca-Cola, l'excès de sucre. C'est que à un moment, on met sur le principe de dire on a.
Mais l'État n'est-il pas responsable de la santé publique?
L'État est responsable de la santé publique, mais l'État est-il responsable de ma santé et peut-il gérer mon niveau de vie pour m'obliger à être en bonne santé?
Oui.
Et puis je me permets de dire, je ne l'ai pas connu, mais j'avais un grand-oncle qui paraît-il disait vaut mieux vivre jusqu'à 60 ans et bien s'amuser jusqu'à 80 et se faire chier.
Ouais.
Moi, je reste assez partisan de ça.
Gens qui arrivent malades, et j'en ai eu autour de moi. C'est un fumeur qui te parle. Sauf que les gens te disent ça et puis le jour où ils sont malades, ils te réclament des soins. Ils changent. En tout cas,
moi, je ne suis pas un fumeur de cigarettes. Mais je veux dire, je trouve. En plus, je répète, la prohibition, à un moment, ne fonctionne pas. Et ce que disait Perico, oui, effectivement, ça va réorienter le trafic. Alors, en termes de santé publique, le tabac est moins... évidemment, le tabac, c'est quand même moins grave que la cocaïne. Sauf que, par contre, en termes d'insécurité, en termes de violence, en termes de trafic, etc., comme la cigarette, c'est encore plus simple, on va voir ce qu'on va voir. Et donc, en termes de criminalité, c'est pas non plus très bon, parce que l'intérêt de la légalisation, c'est aussi lutter contre la criminalité.
Oui, oui. Frédéric Hermel, le Royaume-Uni s'apprête à interdire progressivement le tabac. On vous pose la question, faut-il faire la même chose en France? Allez. Vous nous appelez au 32-16 et je te pose la question.
Allez. Je ne suis pas du genre, en tant que bon Français, à piocher les idées pour mon pays au Royaume-Uni. La perfide Albion. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée pour exactement les mêmes raisons que Perico pense que c'est une bonne idée, à cause du trafic. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le tabac est légal, les doses de nicotine, de goudron, etc., toutes les saloperies qu'il peut y avoir dans le tabac, sont contrôlées. À partir du moment où il y a interdiction, il y a trafic.
Il y a déjà trafic.
Oui, d'accord. Oui, mais là, ça sera 100% de trafic. Donc ça veut dire que 100% des cigarettes qui vont circuler parce que des gens vont continuer à fumer, ne vont pas être contrôlées par l'État. Donc les doses seront libres, les doses seront sera des cigarettes beaucoup plus nocives. Déjà pour la santé individuelle, voilà.
On le voit d'ailleurs sur les cannabis, hein,
où mais
le
taux de THC ne cesse de monter. Voilà, la différence, de toute façon, tous les
professionnels, le c'est que le cannabis ne cesse de progresser.
Il va progresser, et puis si on légalise, ça sera un THC qui est limité, et les gens qui ont besoin de leur dose très forte de THC iront vers un cannabis illégal. Donc c'est une très mauvaise idée. Ensuite, il y a tout un pan de la société. Voilà, ça représente quand même une certaine économie. Les buralistes qui vont disparaître.
Qui se renouvelleront, très bien. Ils sont déjà forcés de le faire aujourd'hui.
Et puis après la violence, parce que c'est évidemment parce qu'il y aura de la violence. Il y aura de la violence dans ce trafic. Je pense qu'on a fait un effort énorme déjà avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Déjà, ça a dégoûté beaucoup de gens. Voilà. Il faut continuer à informer les gens sur les dangers du tabac. Et aujourd'hui, sincèrement, aujourd'hui, moi j'ai 54 ans, le nombre de gens qui fument aujourd'hui par rapport aux gens qui fumaient quand j'avais 15 ans, mais ça n'a absolument, il y a 40 ans, ça n'a absolument plus rien à voir.
Mais c'est parce qu'ils sont moins visibles.
Ils ne fument plus dans les restaurants, ils ne fument plus dans les cafés.
Il y a 40 ans, on aurait fumé sur ce plateau. Je ne fume plus dans les discothèques, de toute façon, il n'y a plus de discothèques.
Il y a 12 fumeurs quotidiens en France encore aujourd'hui.
Ouais, on ne fume plus dans les films, alors forcément, tu ne les vois plus, les fumeurs.
Alors, ça, par exemple, c'est ridicule de fumer dans les films, je trouve ça ridicule. Par contre, moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a. Quand j'étais petit, voilà, je suis désolé de parler comme un vieux con. À l'école, il y avait une pub et il y avait des affiches partout. Une cigarette écrasée, c'était un peu de liberté gagnée. On expliquait le bienfait de ne pas fumer. Aujourd'hui, il n'y a plus de campagne. Il n'y a pas beaucoup de campagne. On parle d'interdiction, mais il n'y a pas de campagne. En tout cas, beaucoup moins d'informations sur les dangers du tabac. Donc, je préfère informer qu'interdire.
Alfred, tiens, aujourd'hui, c'est quoi la contrebande? Ça représente quoi en France?
Écoute, on a eu des chiffres la semaine dernière du fabricant de tabac CETA qui estimait qu'en France, 40% des cigarettes achetées l'étaient hors du réseau. On n'achetait pas les cigarettes chez le buraliste, mais c'était soit des cigarettes de contrebande, soit des cigarettes achetées légalement dans un pays voisin.
Bon, en même temps, le chiffre, ça nous vient de CETA, un fabricant de tabac, donc forcément.
Ben oui.
Catherine est avec nous au 32-16. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous nous appelez d'où, Catherine?
De Béziers.
Béziers dans l'Hérault. Vous faites quoi dans la vie?
Je vends du tabac.
Ah, vous êtes buraliste?
Oui.
D'accord. Le Royaume-Uni s'apprête à interdire progressivement le tabac. Vous avez entendu, faut-il faire la même chose en France, Catherine?
Non, c'est de l'utopie.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ça n'empêchera pas les jeunes de fumer.
Ils se fourniront ailleurs, en contrebande, à la contrebande.
Oui, moi je le vois dans mon tabac. Quand je refuse à un mineur de la vente d'un paquet de cigarettes, ils attendent dehors d'avoir un majeur, et puis le majeur achète le paquet de cigarettes pour lui donner. Et puis après, ils iront l'acheter au marché noir.
Mais est-ce que vous pensez... Vous êtes mère de famille ou pas, Catherine?
Oui, j'ai 4 enfants.
Ils sont grands, ils ont quel âge?
29, 24, 20 et 19.
Et est-ce qu'ils fument?
Et ils n'ont pas intérêt.
Ah, c'est intéressant.
Eh oui, elle est très cohérente.
Ils n'ont pas intérêt.
Et je suis fumeuse, hein, pourtant.
Catherine est très cohérente.
Mais Catherine, est-ce que vous pensez pas que si on interdit là en Grande-Bretagne, on commence, enfin ça a été voté par les députés, il faut que ça va encore que ça soit validé par le Parlement, je crois.
Exactement.
Mais si on interdit aujourd'hui aux mineurs de 15 ans de fumer. Et fumer à jamais, hein. Et on fait ça chaque année. Est-ce que vous pensez pas qu'à 15 ans, quand même, ça peut dissuader?
Non.
Ouais. De toute façon, c'est interdit au moins 18 ans.
Déjà, ce qu'il faudrait interdire à la vente, c'est les puffs.
Ah oui, ça, c'est prévu, hein, d'ailleurs. C'est prévu. Ouais. Ça.
Oui, ça avait été déjà prévu, ça a été arrêté. Ça devrait être interdit, quoi.
Mais vous pensez qu'il y a un double discours de la part de l'État français ou pas? Parce que j'évoque notamment les taxes, hein. Sur le tabac.
Oui, ça va pas leur faire perdre un petit peu d'argent quand même.
Et vous-même, vous le sentez dans votre commerce? Ça fait combien de temps que vous tenez ce commerce?
Moi, j'y travaille depuis, ça fait que 4 mois, mais ça fait un an que je suis dans la vente de tabac. Mais plus ça va, plus c'est jeune. Hein. Et ça on a beau leur demander leur pièce d'identité, donc ils n'ont jamais, d'ailleurs. Ils connaissent même plus leur année de naissance. Hein.
Ah oui, ouais, amnésique.
Ça, c'est souvent ça, ouais, quand vous les piégez. Plus, hein.
Ouais, ils sont nuls en calcul, en plus, ils ont du mal.
Voilà.
Moi, j'ai tenu jadis.
Moi, je me vois mal après, donc, je ne sais pas si je continue encore 10 ans, demander à quelqu'un de 30 ans sa pièce d'identité, quoi. Ça va être un boulot monstre. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, non, c'est l'utopie.
Merci Catherine d'avoir été avec nous. Catherine qui nous a buraliste, qui nous appelait depuis Béziers au 32-16, et vous êtes nombreux également à réagir sur les réseaux sociaux.
Vous êtes
Alfred.
Oui, vous êtes très nombreux à nous écrire. Marc qui dit oui, il faudrait faire pareil. J'ai commencé il y a 20 ans et ça fait un an que je me fais aider pour arrêter. Et puis Hervé qui dit c'est une super idée. Malheureusement en France, le tabac rapporte tellement à l'État que ça n'arrivera jamais.
Ouais, ça rapporte à l'État, c'est vrai, mais à chaque fois on
ça
le
coûte
dit,
ça coûte
beaucoup,
cher.
Beaucoup immensément plus cher en coût social, parce que il faut évidemment compter le coût pour la Sécu, le coût pour l'assurance maladie, le coût pour la société en général.
C'est pas rentable pour l'État, le tabac. Hein,
non, c'est
quand on calcule
pas du tout. Olivier est avec nous au 32-16. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans RMC Midi sur RMC RMC Story. Vous nous appelez d'où, Olivier?
Je vous appelle de... J'appelle de Calais, dans les Hauts-de-France. Ah,
dans les Hauts-de-France, pas de Calais, un pays de Frédéric Hermel. On est voisins, moi je suis du Nord. Oui. Olivier, c'est pas tout à fait la même chose quand même.
Ah non, c'est pas du tout pareil.
Olivier, allez, revenons à nos moutons. Est-ce que, comme en Grande-Bretagne, il faudrait interdire progressivement le tabac en France?
Oui, alors moi c'est paradoxal. Moi je suis un ancien fumeur, j'ai fumé pendant plus de 25 ans.
On l'entend
et
encore.
Puis, oui, d'accord. Et j'ai arrêté il y a plus de 10 ans parce que bon voilà, sur un coup de tête. Et je pense que oui, il faut l'interdiction du tabac. Alors bon, malheureusement, je sais ce que ça peut développer, hein, le commerce parallèle, ouais. Le trafic de cigarettes, etc., etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais pour l'économie déjà de parce qu'on dit oui, l'État le tabac ramène beaucoup de taxes à l'État, etc., etc. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que mon père est mort il y a 6 mois, malheureusement, du tabac, ça ramène plus de dépenses que
de rentrée
d'argent.
C'est ça comme une mesure.
Donc moi je suis pour oui. Alors c'est peut-être ferme ce que je dis, mais je pense qu'il faut faire pareil. Il faut arrêter le tabac. Alors je comprends bien qu'il y a des enseignes, des gens qui vendent du tabac, etc. Donc ils vont pas être très très contents de ce que je dis. Hein, ça j'entends bien, mais c'est un poison mortel. Et puis il faut arrêter, ou peut-être légaliser autrement, comme j'ai entendu ce matin, les Pays-Bas qui veulent légaliser la cocaïne, par exemple.
Ouais, là, c'est encore autre chose. Là, on passe un autre cap. Mais on a bien compris votre sentiment. Merci, Olivier, d'avoir été avec nous. Olivier qui nous appelait depuis Calais, dans le Pas-de-Calais, au 32-16. On vous a posé la question sur nos réseaux sociaux. Le Royaume-Uni s'apprête à interdire progressivement le tabac. Faut-il faire la même chose en France?
Vous répondez oui à 51%,
j'ai gagné.
Non à 49%.
On a gagné.
Comme quoi, c'est
il
pas
est déjà dans les JO.
C'est pas totalement, mais comme quoi, ce n'est pas totalement rejeté. En tout cas, c'est clair. Allez, dans un instant, tiens, tu parlais des JO, ça tombe bien.
Ah bah oui,
merci pour cette transition.
C'est jour, hein.
Donc, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel dans un instant. Anthony qui va nous parler de JO, mais alors de JO particulier. Des JO, le dopage sera autorisé. Voire même encouragé.
Oh là là.
C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
Officialiser ce qu'est la réalité.
Ah voilà. Non, mais c'est-à-dire que si tu veux concourir, il faut te doper. Et même bien te doper. Trop te doper, voire. On en parle dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT, comme tous les jours, midi, 15h, et comme tous les jours à cette heure-là, Anthony Morel nous a rejoint.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Ça te rappelle des souvenirs.
Bah évidemment.
Bip bip le coyote. Parce qu'il va très 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 vite. Et on va parler d'athlètes qui pourraient aller très 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 très, très très vite. Alors je sais pas si on peut encore utiliser le terme d'athlète, mais en tout cas Anthony, on va parler d'abord bonjour.
Bonjour.
On va parler de Jeux Olympiques très particuliers. À 100 jours de l'événement, tu nous parles de ce projet complètement dingue, celui de Jeux Olympiques où le dopage ne serait pas interdit. Mais où il serait même encouragé.
Ouais, alors ça n'a rien à voir avec le comité olympique, hein, je dis d'emblée, c'est vraiment une compétition alternative, mais c'est un projet très sérieux qui devrait avoir lieu pour la première édition, en tout cas l'an prochain. Son nom, les Enhanced Games, c'est pas facile à dire, ça veut dire les jeux augmentés ou les jeux améliorés en anglais. Donc c'est une compétition multidisciplinaire calquée sur les JO, à une petite différence près, c'est qu'il n'y a aucun contrôle antidopage. En gros, les athlètes s'entraînent comme ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent, et à la fin, que le plus chargé gagne, mais c'est un peu ça, si tu veux. Alors, pas forcément, mais en tout cas, tu as le droit de faire absolument ce que tu veux. Donc, il y aura 5 catégories, athlée, natation, gym, sport de combat, sport de force. Donc, si tu veux te bourrer de créatine et tenter d'être plus rapide qu'Usain Bolt, tu as le droit. Tu peux faire absolument ce que tu veux. En gros, pour les organisateurs, alors, c'est qui d'abord qui est derrière cette compétition?
C'est quoi le but?
C'est un homme d'affaires australien, qui est appuyé par des grands milliardaires de la tech, genre Peter Thiel, alors, pour ceux qui connaissent. C'est un transhumaniste, c'est des gens qui sont des libertariens. En gros, leur idée et leur idéologie, c'est de dire finalement, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, donc y compris de se doper, tous dopés, tous égaux, et une fois qu'on a ça, qu'on est tous chargés de la même manière, et bien finalement, que le meilleur gagne. En gros, c'est ça leur philosophie. Alors, on peut le déplorer, mais en tout cas, leur idée, c'est vraiment ça. Il faut aller voir vraiment sur leur site, c'est incroyable. Donc, Enhanced Games, vous avez. Alors, ils font les listes des records du monde, mais pour eux, par exemple, Lance Armstrong, il a toujours ses Tours de France, il n'y a aucun souci. Ou Tyson Gay qui a été condamné pour dopage en athlétisme, même chose, il est toujours légitime, il y a aucun problème.
C'est quand même un discours super dangereux.
Super dangereux, oui, parce que faut quand même rappeler que le dopage, c'est dangereux, quoi qu'ils en disent. Hein, il y a un moment, il y a des conséquences à long terme au fait de prendre des produits dopants. Alors eux, ils mettent ça en perspective, ils disent non, mais attendez, le dopage, ça a toujours fait partie de l'histoire du sport. Même les Jeux Olympiques, les historiens disent que même dans l'Antiquité, les athlètes, les combattants, par exemple, prenaient certaines plantes pour doper leur performance.
On a évolué depuis.
Voilà, je ne sais pas si c'est vraiment comparable au fait de prendre des stéroïdes ou des hormones de croissance en termes d'effet sur la santé, mais. En gros, alors leur idée, et je trouve que c'est pas idiot de ce point de vue-là, ils disent en gros aujourd'hui on a un système qui est complètement hypocrite, c'est-à-dire ça, que les Jeux Olympiques tels qu'ils existent aujourd'hui, ça cherche pas à préserver la santé des athlètes, les contrôles antidopage, juste à préserver une illusion d'équité, parce que on sait qu'il y a des athlètes qui passent entre les mailles du filet, c'est évident, et donc là ils disent finalement arrêtons avec cette hypocrisie, permettons à tout le monde de se doper et on verra qui est vraiment le meilleur.
Ouais, mais alors ça intéresse vraiment des athlètes ces JO là
Écoute,
je vois pas qui va accepter.
Si, il y en a, figure-toi, parce qu'il y a des gros sous aussi à la clé. Parce que, comme je te disais, il y a des grands financiers derrière de la tech qui ont beaucoup d'argent. Et donc là, ils proposent $1 million par record du monde battu. Donc, quel que soit le niveau de dopage, il y a 900 athlètes qui se seraient déjà montrés intéressés, dont certains publiquement. Alors, on a par exemple ce monsieur là qu'on voit pour ceux qui nous regardent à la télé, qui s'appelle James Magnussen. Alors, moi, je le connaissais pas, mais c'est un double champion du monde et vice-champion olympique de 100 mètres nage libre. Donc, c'est pas le Pékin moyen, quoi. Hein. C'est vraiment un grand champion de natation qui serait prêt donc qui est prêt, même il l'a dit, à sortir de sa retraite et à je prends son expression, à se doper jusqu'aux branchies, j'aime bien l'expression pour un nageur, pour pouvoir battre le record du 50 mètres nage libre et empocher le $1 million à la récompense. Alors il y a eu des réactions officielles de la part du comité olympique qui estime que cette idée ne mérite aucun commentaire, et Sébastien Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme, qui estime que n'importe quel athlète participant à cette connerie, je le cite, devrait être interdit de compétition pour très longtemps. On leur reproche aussi évidemment de négliger la santé des athlètes. Alors il y aura des bilans de santé, mais enfin bon, ils seront pas là dans 10-15 ans quand tu auras les conséquences à long terme du dopage pour prendre en charge ces athlètes, évidemment.
Anthony, c'est effrayant.
Oui, c'est effrayant, je sais. Mais intéressant quand même. L'idée qu'on puisse ne serait-ce qu'avoir cette ambition de lancer des JO augmentés.
Le chef d'État du pays qui reçoit ce dop gagne la compétition, devient champion du monde. Je fais pas allusion à Macron, mais imaginez qu'il, vous voyez,
en boxe, par exemple. Allez, dans un instant, on va parler de toute autre chose, de ce sondage qui vient de paraître. 59% des Français favorables au port d'armes systématiques pour les policiers municipaux. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.